Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue. Vous êtes sur l'émission Les Neveux de René, Chemin de Pensée. Et nous sommes actuellement en train de cheminer avec René Descartes. Lors de la première émission, nous avions découvert le discours de la méthode. Et nous allons continuer à étudier cette œuvre en compagnie des textes. Et vous êtes avec Nazim Fattès, Sylvain Contasso-Vivier et Nicolas Lemoine qui va nous faire le résumé de la semaine dernière.
Alors, après s'être dépaysé dans la Grèce antique du 5e siècle avant Jésus-Christ, avec l'apologie de Socrate qui nous a occupés pendant 4 séances, nous avons effectué la semaine dernière un retour au pays en abordant le discours de la méthode de René Descartes, œuvre majeure de la philosophie du XVIIe siècle. Nous avons d'abord pris le temps de lire le titre complet de l'œuvre, « Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences ». Le mot « science » doit être compris non pas au sens de « science positive » ou « dure », mais au sens ancien, celui d'ensemble de connaissances. D'après le titre, il s'agit de chercher la vérité et donc à distinguer le vrai du faux. De chercher la vérité parmi les connaissances accumulées. Il s'agit d'une recherche, d'un chemin, qui se dit « hodos » en grec, d'un chemin vers la vérité, et pour cheminer, il faut un guide qui conduise notre raison, quelque chose qui chemine avec le chercheur, et avec, se dit en grec, « méta ». Ce quelque chose, c'est le « méta hodos », c'est-à-dire la méthode. Nous avons ensuite commencé par lire le texte du préambule de Descartes, qui présente le plan de l'ouvrage en 6 parties. Avec Descartes, on sait où on va. Pourtant, la succession des titres de ces parties peut paraître étrange à un habitant du XXIe siècle. On fait le point sur les sciences, c'est-à-dire sur les connaissances de l'époque, puis on donne les règles de la méthode, la démarche de recherche est ordonnée, puis viennent pêle-mêle des résultats de cette démarche sur le plan de la morale, sur l'existence de Dieu et de l'âme, avant de revenir à ce que nous appelons les sciences, la physique, la biologie, la médecine. Nous sommes les neveux de René, mais plusieurs générations nous séparent de lui. Que de chemin parcouru. Mais que de chemin parcouru entre Socrate et Descartes. Socrate montre la limite des connaissances humaines par le dialogue. Mais il ne semble pas avoir de méthode pour dépasser cette limite. Descartes, lui, ouvre un chemin de longue haleine, puisqu'il confie à ses neveux, ses descendants, le soin de récolter les fruits.
Merci Nicolas. Alors, pour aborder cette nouvelle séance, nous nous étions arrêtés donc sur la fin de ce premier paragraphe ou second paragraphe du discours de la méthode. Et dans ce fameux paragraphe, il était question de choses qui étaient assez peu compréhensibles de nos jours, puisque Descartes nous parlait des philosophes qui l'ont précédé. Alors, peut-être on peut relire la fin de ce paragraphe. Il nous disait car pour la raison ou l'essence, d'autant ou le pardon. Car pour la raison ou le sens, d'autant qu'elle est la seule chose qui nous rend hommes et nous distingue des bêtes, je veux croire qu'elle est tout entière en un chacun, et suivre en ceci l'opinion commune des philosophes, qui disent qu'il y a du plus et du moins qu'entre les accidents, et non point entre les formes ou natures des individus d'une même espèce. Alors ça c'est très curieux. Nous conseillons bien sûr à nos auditeurs d'ouvrir le discours de la méthode à la fin, enfin la fin de ce paragraphe qui commence le discours de la méthode, et donc que la raison soit la seule chose qui nous rend hommes et nous distingue des bêtes, on comprend bien, d'accord. Ça, je pense que ça pose pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de philosophe, de forme, d'accident, etc. Est-ce que Nicolas ou Sylvain, vous pouvez dire ce que vous comprenez quand vous lisez ça?
En fait, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'au final, par rapport justement aux idées des philosophes, il reprend là pour le coup l'idée hein, des philosophes anciens, donc antiques, hein, les Grecs notamment, sur les notions justement de forme, Ici, on pourra se rapprocher d'ailleurs du terme de, introduit par Platon, eidos, hein, idée.
Eidos, enfin, c'est ce qui donne idée.
Voilà, alors, c'est ce qui est souvent traduit par idée, mais c'est un peu réducteur au final.
Parce tout à fait. On peut simplement dire une petite chose hein, qui peut être intéressante pour les auditeurs, c'est que le mot idée, hein, qu'on emploie tous les jours, hein, idée politique, j'ai mes idées, etc., c'est une invention de Platon. Hein. C'est un mot que lui a inventé pour lui donner un sens philosophique à partir de quelque chose qui dit la forme de ce qu'on voit, comme on voit un visage finalement. On peut penser au mot visage quand on pense à Eidos, ou qu'on peut penser au mot il a montré son vrai visage, ou la chose par laquelle on reconnaît qu'elle est telle qu'elle est.
C'est ça, c'est l'essence d'une chose en fait. Hein,
Alors effectivement, essence, le mot viendra plus tard.
Oui.
Et essence, c'est le vocabulaire de la scolastique, peut-être un peu plus. Nicolas, est-ce que tu veux dire deux mots sur ce mot scolastique, qui est un mot technique, qui ne doit pas nous faire peur?
Bah, un petit peu quand même, peut-être. Je ne sais pas.
Ouais.
La scolastique, bah, c'est la philosophie des écoles, donc des écoles universitaires du Moyen-Âge. Et donc, la scolastique à laquelle se réfère Descartes ici est visiblement aristotélicienne, puisque la scolastique s'est réappropriée la pensée d'Aristote à partir du milieu du Moyen-Âge. Et on y retrouve effectivement le vocabulaire aristotélicien avec donc la notion d'accident, donc quelque chose qui peut ou pas être associé à quelque chose.
Pour donner un exemple concret, on pourrait imaginer voilà l'espèce humaine, enfin un être humain. Quand on parle humain, on a une forme, la forme humaine, et les gens sont des instances de l'humain.
Oui,
mais donc en fait,
on voit bien
toutes les différences ici, justement des instances et des entre guillemets accidents, bien sûr ici, pas prendre sur un terme négatif, mais on voit bien la distinction entre l'idée de l'humain et les gens réellement.
Je prendrai encore un exemple encore plus concret, celui du chaud et du froid. Quand mon enfant était tout petit, il avait pas compris que chaud et froid, justement, c'était pas quelque chose qui était associé à ce qu'il avait dans son assiette. Pour lui, quelque chose qui était chaud allait rester chaud. Et donc, si c'était trop chaud pour lui, eh ben, il n'en voudrait pas, puisque de toute façon, ça resterait non consommable. En quelque sorte, il n'avait pas compris que chaud ou froid n'était pas, ne faisait pas partie de l'essence de ce qu'il avait dans son assiette, mais était uniquement un accident.
D'accord, oui. C'est-à-dire une chose peut être chaude, elle peut être froide. Et juste par rapport à ce que tu dis, c'est comme quand tu dis la forme d'un être humain. C'est intéressant parce que on va revenir à un thème qui est au centre aussi du discours de la méthode, c'est le thème de l'âme. La forme de l'être humain, je pense, chez la scolastique, c'est l'âme humaine. Attendez, il faut pas prendre forme comme avoir deux bras, deux jambes, etc.
Bien sûr,
parce que
là,
précisément,
c'était pas ce terme.
Si quelqu'un
pas un
n'a
terme
pas
physique, là,
une
ici.
Forme physique qui ressemble à un être humain,
non, mais bien sûr.
Il n'en demeure pas moins humain. Certains, voilà. Donc, simplement, pourquoi on parle de ça, pour resituer par rapport au père Descartes? Simplement parce que il est en train de reprendre des notions qui l'ont précédé. Mais je voudrais dire que c'est peut-être pour mieux les dynamiter, parce que on va voir que dans toute la suite de la première partie, Descartes n'a de cesse de dire que bon, il a reçu une certaine éducation, mais il s'agit justement cette philosophie scolastique, laquelle a figé la pensée d'Aristote, il s'agit de la faire voler en éclats.
Oui, alors justement à ce sujet, on peut justement avancer un petit peu dans le texte hein, du discours, et donc un petit peu plus loin. Quelques paragraphes après, on arrive
toujours dans la première partie,
à un moment donné où il explique qu'au final, lui, il a reçu une éducation assez importante, mais finalement, il est un peu déçu. Alors, je vais vous lire un petit peu le passage, hein, et puis on en discutera après. « J'ai été nourri aux lettres dès mon enfance, et pour ce qu'on me persuadait que, par leurs moyens, on pouvait acquérir une connaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie, j'avais un extrême désir de les apprendre. Mais, sitôt que j'eus achevé tout ce cours d'études, au bout duquel on a coutume d'être reçu au rang des doctes, je changeais entièrement d'opinion. Car je me trouvais embarrassé de tant de doutes et d'erreurs qu'il me semblait n'avoir fait autre profit en tâchant de m'instruire, sinon que j'avais découvert de plus en plus mon ignorance. » Donc, voilà, j'arrête ici la lecture et on s'aperçoit qu'au final, il a l'air plutôt déçu de ce qu'il a appris, quoi.
Voilà, et tout le reste de la première partie ne va être fait que ça. Cela dit, on peut tempérer juste en lisant la phrase, si tu avais continué une phrase plus loin, parce qu'il dit « Et néanmoins, j'étais en l'une des plus célèbres écoles de l'Europe, où je pensais qu'il devait y avoir de savants hommes, s'il y en avait en aucun endroit de la Terre.
Mais là, pour le coup, il enfonce encore plus le clou, hein, parce qu'il dit « j'étais quasiment dans une des meilleures écoles presque du monde, on pourrait dire, enfin de l'Europe, mais bon, en tout cas de son monde à lui, parce que bon, on va dire que les frontières n'étaient pas tout à fait, ou en tout cas les distances n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. » Donc globalement, il dit « j'ai reçu une éducation d'un des meilleurs établissements de l'Europe, et pourtant... »
Alors, cet établissement, on peut le nommer, hein, René Descartes a été au collège de jésuites, qui est donc la Flèche, d'accord. Je crois qu'il faut pas trop se laisser prendre au piège de Descartes, et de croire vraiment que la Flèche, c'était un collège...
C'est Henri IV, en fait.
Voilà, c'est Henri IV qui l'a fondé, il était là à son début... d'ailleurs, il a un privilège qui est de pas se lever tôt, alors tout le monde se lève à 5h du matin, lui.
Il avait réussi à convaincre ses maîtres que ses bons résultats scolaires dépendaient du fait qu'il ne se leva qu'à 11h.
Voilà. Alors, c'est un collège de jésuites, donc je crois que c'est le seul élève qui aura ce privilège. Mais il faut dire qu'il va y avoir quelque chose de déterminant du fait que Descartes se trouve à la Flèche. Et donc, il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose de stérile qu'il va recevoir. Effectivement, Descartes est un philosophe parce qu'il va faire voler en éclats son héritage, mais il ne faut pas sous-estimer cet héritage. C'est quelque chose d'impressionnant qu'il va recevoir.
Bien sûr, oui.
Et il le dit lui-même, d'ailleurs. C'est parce qu'il a appris beaucoup et de maîtres divers... qu'il a pu se rendre compte des limites de ses connaissances.
Oui.
S'il n'avait reçu aucune connaissance, il n'aurait même pas pu se rendre compte qu'il était finalement ignorant.
Alors donc, on peut aussi continuer à lire. Y a un passage que je trouve assez drôle, hein, finalement, puisqu'il va parler des sciences qu'il a reçues. Alors science, encore une fois, c'est au sens ancien du terme. Alors dans les sciences qu'il cite, il cite par exemple l'éloquence, les mathématiques, la théologie... Et lorsqu'il en vient à parler de philosophie, il dit « Je ne dirai rien de la philosophie, sinon que, voyant qu'elle a été cultivée par les plus excellents esprits qui aient vécu depuis plusieurs siècles, et que néanmoins il ne s'y trouve encore aucune chose dont on ne dispute, et par conséquent qui ne soit douteuse, je n'avais point assez de présomption pour espérer d'y rencontrer mieux que les autres. »
Alors rencontrer, c'est-à-dire d'y réussir.
D'y réussir, voilà, tout à fait. Et voilà. Et on peut peut-être aussi lire la suite. Alors, il dit, considérant combien il peut y avoir de diverses opinions touchant une même matière, qui soit soutenue par des gens doctes, sans qu'il y en puisse avoir jamais plus d'une seule qui soit vraie, je réputais presque pour faux tout ce qui n'était que vraisemblable. Donc ça, c'est un jugement... sans appel pour la philosophie avec un grand P. C'est-à-dire ce qu'il faut traduire ici philosophie par philosophie scolastique.
Alors là, pour le coup, ça nous ramène d'ailleurs à un autre écrit de Descartes, hein, qui est les règles pour la direction de l'esprit.
Voilà, alors en latin, regulae ad directionem ingenii, je crois. Donc c'est un écrit qui précède le discours de la méthode et c'est... presque une ébauche du discours de la méthode, peut-être avec un contenu moins porté vers la métaphysique. Oui, alors Sylvain, tu veux nous lire des extraits ?
Alors oui, parce qu'il y a, disons que c'est directement en rapport, hein, avec ce passage, où ce qui est intéressant aussi, c'est, on va dire, le jugement que Descartes porte aussi sur certaines choses. Donc là, c'est la règle 2, du coup, c'est en rapport avec la règle 2, hein, de cet autre écrit. La règle 2, en fait, c'est quoi ? C'est « Il ne faut s'occuper que des objets dont notre esprit paraît capable d'acquérir une connaissance certaine et indubitable. » Donc voilà la règle 2. Et à un moment donné, donc il explique bien sûr dans cet écrit un petit peu, il détaille un peu les choses. Et ce qui est intéressant, c'est ce petit passage-là. « En vérité, si nous observons bien cette règle, il y aura fort peu de choses dont nous pourrons entreprendre l'étude. » Dans les sciences, en effet, il n'y a peut-être pas une question sur laquelle les savants étaient souvent en désaccord. Or, chaque fois que sur le même sujet, deux d'entre eux sont d'un avis différent, il est certain que l'un des deux au moins se trompe. Et même aucun d'eux, semble-t-il, ne possède la science. Donc voilà le passage. Et alors là, c'est intéressant parce que quelque part, Descartes, là aussi, alors, il va, moi, je trouve que c'est un peu rapide, au final, ce qu'il dit là, parce que il dit que globalement, à partir du moment où deux personnes sont en désaccord, il y en a forcément au moins un des deux qui a tort, ce qui n'est pas forcément vrai.
Et d'ailleurs, ça peut nous faire penser à notre époque. Un des traits fondamentaux de notre époque, bizarrement, c'est de dire « Ah bah il faut être tolérant, chacun a son jugement, chacun a sa vision du monde. » Et ça, c'est un leitmotiv. Quand les gens parlent, ils disent souvent « Ah, chacun a sa vérité. » Or, on voit qu'en lisant Descartes, une telle chose n'est pas possible.
Pour lui, non.
Voilà. Donc, ça aussi, il faut voir. Et cette phrase que tu viens de citer, ces explications que tu viens de citer, elle me rappelle aussi donc la devise ou ce qu'avait écrit Platon en haut de l'Académie, hein, que ce soit vrai ou faux, on n'en est pas certain, mais que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Voilà. Et ça va se retrouver vraiment de la même façon chez Descartes, à savoir les mathématiques, ça entraîne à raisonner bien et à ce que les personnes soient d'accord entre elles.
Voilà. D'ailleurs, effectivement, Descartes en parle aussi, toujours dans ce même document, d'ailleurs, dans les règles pour la direction de l'esprit. Donc là, c'est la règle 4, pour le coup. Et il explique, en fait, justement, un petit peu... alors, effectivement, il parle des créateurs de philosophie qui, effectivement, acceptaient... souhaiter que leurs disciples aient des connaissances en mathématiques, notamment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'interrogent sur comment on arrive à des résultats en mathématiques, en tout cas avant lui. Et il dit à un moment donné, c'est intéressant, « Rien n'est plus vain non plus que de s'appliquer à ces démonstrations superficielles que l'on trouve plus souvent par hasard que par savoir-faire, et qui sont du ressort des yeux et de l'imagination plus que de celui de l'entendement. » Donc ça, c'est intéressant parce que quelque part, il est en train de dire finalement tout ce qui a été trouvé avant, ou en tout cas une bonne partie de ce qui a été trouvé avant, c'est pas mal par hasard et un petit peu par intuition, par tâtonnement et ce genre de choses, quoi.
Bon, ben, je vous propose de faire une petite pause musicale et on va reprendre. En tout cas, ce qu'on retiendra de cette première partie d'émission, c'est une opposition au hasard. Ça, c'est sûr. La méthode, c'est ce qui s'oppose au hasard et la place centrale de la certitude.
Radio des Régions, RCF.
Donc, nous sommes bien sur l'émission de philosophie Les Neveux de René, Chemin de pensée. Nous discutons de Descartes et du discours de la méthode. Alors, nous étions en train de dire que la méthode consiste à fuir le hasard autant que se peut, c'est-à-dire il ne s'agit pas de trouver des découvertes comme ça, en mélangeant par exemple, s'il s'agit de chimie, il ne s'agit pas de mélanger un petit peu au petit bonheur la chance, jusqu'à trouver comment convertir le fer en or, hein, puisque c'était le but de l'alchimie, mais il se dit à chaque fois de donner des raisons de faire une chose plutôt qu'une autre. Et on voit que ça, c'est l'essence de la méthode. Mais encore une fois, il faut pas limiter la méthode de Descartes à quelque chose ou uniquement à ce qu'on appelle de nos jours les sciences positives, c'est-à-dire les sciences expérimentales ou les mathématiques. Mais pour lui, c'est... le visage de la vérité, c'est-à-dire si j'atteins une vérité, il faut que ce soit en ordonnant les arguments les uns par rapport aux autres et passer de certitude en certitude.
Voilà, c'est ça. Ce qui est surtout important chez lui, c'est cette idée de certitude de ne pas laisser la place au doute en fait.
Oui. Et alors là, c'est pour bâtir quelque chose là-dessus, il y a un présupposé que Descartes expose tout à la fin des sciences qui l'ont déçu. Il termine par les sciences les plus éloignés de la raison, justement, il parle des sciences occultes. Et ce que dit Descartes, c'est qu'il les rejette. Faire confiance à la raison pour cheminer, faire confiance à cet enchaînement de causes et d'effets, ça suppose un refus d'une causalité magique qui serait l'arbitraire d'un esprit, d'un démon. Et Et enfin, pour les mauvaises doctrines, je pensais déjà connaître assez ce qu'elles valaient pour n'être plus sujet à être trompé ni par les promesses d'un alchimiste, ni par les prédictions d'un astrologue, ni par les impostures d'un magicien, ni par les artifices ou la vanterie d'aucun de ceux qui font profession de savoir plus qu'ils ne savent.
Ouais, tout à fait. Puis d'ailleurs, un petit peu avant, hein, dans la première partie du discours, il annonce, enfin, il parle justement de ce problème de doute, et il dit bien, donc, il commence à parler de sa méthode. Il dit, hein, j'ai formé une méthode par laquelle il me semble que j'ai moyen d'augmenter par degré ma connaissance et de l'élever peu à peu au plus haut point auquel de la médiocrité de mon esprit et la courte durée de ma vie lui pourront permettre d'atteindre. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est vraiment cette notion de pas à pas, en fait, oui, de cheminement pas à pas.
Degré, d'ailleurs, voilà, hein, degré, on parle des degrés d'une marche, un escalier, c'est fait par degré. Hein,
et
c'est
toujours ça. Par certitude, c'est-à-dire qu'on avance uniquement quand on est sûr du pas que l'on fait, en fait.
Mais Descartes, dans cette méthode, connaissant le caractère novateur de sa démarche, on est quelque peu effrayé, d'une part parce qu'on a une époque où on peut pas dire tout à fait n'importe quoi sans en subir les conséquences, et d'autre part parce que lui-même, cherchant la vérité, a peur de se tromper et de partir sur une fausse route. Et donc, avant de remettre en cause l'édifice qu'il sait être posé sur des bases branlantes et peu assurées, sur du sable et de la boue, il dit... Eh bien, il va d'abord éprouver sa méthode pendant de longues années. Il dit qu'entre le moment où il va poser les bases de cette méthode et le moment où il va produire donc ces idées métaphysiques qui sont exposées à partir de la section 4 du discours des méthodes, il va s'écouler 9 ans. Il s'estimera trop jeune pour pouvoir faire du passé table rase, comme on aurait dit au XXe siècle. Et donc, il va éprouver sa méthode en l'appliquant d'abord aux mathématiques et puis ensuite à d'autres connaissances.
Alors,
qu'il rebâtit.
C'est très juste et très important ce que tu dis, parce que une chose que nous avons oublié de dire. Alors, on avait au début de l'émission, de la première émission consacrée à René Descartes, nous avions expliqué comment il fallait entendre le mot discours, à savoir discours, c'est je rassemble toutes les connaissances de mon temps. Et on a oublié de dire que le discours de la méthode était une préface. Ce n'est pas un traité à part entière. Bon, ça peut être lu évidemment comme un traité, mais c'est une préface qui précède 3 traités qui sont la géométrie, la dioptrique et les météores. Donc la géométrie, c'est ce qu'on appelle de nos jours la géométrie, c'est la même chose. La dioptrique, c'est ce qu'on appelle de nos jours l'optique. Et les météores, c'est tout ce qui a trait aux phénomènes donc atmosphériques et également aux phénomènes astronomiques. Voilà. Donc ça, et quand tu dis il a éprouvé sa méthode, c'est ça. C'est-à-dire le discours de la méthode ne se présente pas comme quelque chose d'universel. Et lorsqu'on lit Descartes, il ne cesse de dire oh ben les amis, je prétends faire la morale à personne. Je dis juste comment moi j'y suis arrivé.
C'est ça, oui. Là et aussi, je ne suis pas forcément un exemple à imiter.
Voilà, je suis pas un exemple à imiter. Et il le dit clairement dans la deuxième partie, puisqu'il dit la seule résolution de se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues auparavant, en sa créance, n'est pas un exemple que chacun doit suivre. Et plusieurs autres endroits, il va dire, ah ben moi je vous présente mon truc, prenez-le comme une fable, si vous voulez. Bon, toujours est-il que, effectivement, comme tu l'as rappelé, Nicolas, ce qui fait la force du discours de la méthode, c'est que ça a été éprouvé. Mmh. Et Descartes dit, ben vous voyez, je vais vous proposer 3 traités qui sont les applications de cette méthode, et vous allez voir la force de cette chose-là.
Il a presque essayé de faire une validation expérimentale.
Presque, voilà. Alors,
ou de se fonder, et c'est important à l'époque, sur un précepte évangélique. C'est à ses fruits qu'on reconnaît un arbre.
Oui.
Il a voulu montrer, prendre le temps de récolter les premiers fruits de sa méthode avant d'aller plus loin et de faire justement table rase de son ancienne maison.
Tout à fait. Alors, ce qu'on va faire dans la suite des prochaines émissions, eh bien, nous aussi, on va demander à éprouver ces fruits de la méthode. Et puis, je propose aux éditeurs donc de continuer leur lecture, d'avancer sur la lecture du discours de la méthode, avec les deuxième et troisième parties de ce discours de la méthode, et de méditer peut-être sur le mot
de Simone Veil. Donc Simone Veil, la professeure de philosophie du XXe siècle, non pas la femme politique, qui dit la chose suivante dans une lettre qu'elle adresse à Alain, donc son professeur de philosophie. Elle dit « Il me semble que tout ce qui s'est passé depuis 3 siècles pourrait, si on voulait, se résumer en ceci, que l'aventure de Descartes a mal tourné. » Voilà. C'est sur ces paroles que nous allons laisser les auditeurs méditer le travail de René Descartes, et rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.